Pavillon Nomade, le direct.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de Pavillon Nomade, la radio qui se balade et qui se trouve aujourd'hui sur la terrasse de la buvette du quartier culturel. Nous sommes avec Christian, Elvio, Suzanne, Patricia, Cécile, Plantul, Quentin et à la technique, Julien. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. On va sans plus attendre aborder le premier thème qui nous a été proposé par Quentin. Alors Quentin, je vous laisse prendre un micro. Et qui voulait aborder le thème de la stigmatisation. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce que, bah voilà, définir un peu la stigmatisation?
Oui, alors ben, moi je suis une personne concernée par le trouble psychique. J'ai été hospitalisé ici à Malévo en 2020-2021. Et donc, j'ai vécu la stigmatisation un peu dans les deux sens. Et j'entends par là, il y a la stigmatisation qui vient de l'extérieur, des gens qui nous entourent, et il y a l'auto-stigmatisation. Et j'ai lu récemment un texte qui parlait de ça et qui disait qu'en fait, il y a trois directions dans lesquelles ça va. Il y a d'abord, c'est le reproche. On vous reproche d'être malade, on vous reproche de ne pas faire ce qu'il faut pour aller mieux. Vous avez la présomption de dangerosité, qui est qu'on pense que les personnes atteintes de troubles psychiques sont dangereuses, alors que ce n'est pas tellement le cas, en fait, en réalité. Les statistiques le montrent d'ailleurs assez bien, je crois. Et le troisième axe, c'est la présomption d'incompétence, c'est-à-dire que la personne atteinte de troubles psy n'est pas en mesure de faire ce qu'il faut pour solliciter les bonnes aides et aller vers une meilleure santé. Voilà. Donc je pensais que c'était un bon thème à mentionner pour sensibiliser un peu les gens qui nous écoutent, en fait. et puis voilà, donc...
Ouais, super, merci beaucoup. Est-ce qu'autour de la table, il y a quelqu'un qui veut réagir? Oui, Suzanne, ouais, prenez... Il y a plusieurs micros.
Oui, je dirais que il faut répéter. Vous répétez. C'est vous qui devez ouvrir vos oreilles une fois pour toutes. Il n'y a pas de fou ici à Malévo. Il n'y a pas de gens estropiés mentalement. Nous sommes des gens avec un grand potentiel, une grande capacité, et on nous scie l'herbe sous les pieds. On nous coupe. Dès qu'on entre dans une clinique, on vous met à la hie. C'est fini. Votre avenir est terminé. J'en ai la preuve parce que je l'ai vécu. Alors, ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît.
Merci Suzanne. Oui, Christian.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que personnellement, quand on est venu, le docteur m'a dit « Oui, monsieur, vous souffrez d'une démence, il faut vous faire hospitaliser. » J'ai dit « Ouais, bon, ma foi, mes enfants, enfin, un de mes enfants, mon épouse, j'ai dit « Ouais, bon, ben, je viens, j'y vais, quoi, pas de souci, quoi. Hein. » Et puis là, ben, c'est vrai qu'on est catalogué, là. Et puis, voilà, tout d'un coup, on vient, puis on vous dit que... on vous dit rien du tout. Moi, je contrôle un jour mon compte bancaire. Et puis, je vois, on me dit, mon compte est bloqué. Je dis, comment ça se fait? J'ai retiré 50 francs la veille avec mon fils. Je vois pas pourquoi. Le lendemain matin, je téléphone à la centrale. Oh, il faut regarder avec le Bouvray. Bon, je téléphone au Bouvray. Oui, votre compte a été bloqué par votre curateur. Pardon ? Moi, j'ai mis compte à jour. Pourquoi m'a imposé un curateur ? Sans même me prévenir. J'ai demandé des explications. Je n'en ai jamais eu. Puis après, il est venu la PEA. La même chose. Et puis, on m'a mis sous PAFA. Pourquoi ? Je ne me suis jamais mis en danger. Puis j'ai surtout jamais mis autrui en danger. Mais bon. Puis, on m'a placé dans des endroits où je me retrouve avec des gens mais totalement séniles. Donc, je suis tout seul, tout le temps. Parce que je ne peux pas discuter, avoir une conversation normale avec des personnes. Et puis, on veut me donner des médicaments comme la quetiapine. Alors, je ne suis ni bipolaire, ni schizophrène. J'ai juste un médicament, enfin, des médicaments pour la tension et puis un pour dormir. Puis, entre deux, ben, ma foi, je m'occupe comme je peux, avec la pyrogravure. Et surtout, depuis le... 16 octobre 2023, je ne touche plus du tout une goutte d'alcool. Donc, dimanche, ça fera 1000 jours.
Bravo. Bravo.
Et ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai fait justement un dessin là-dessus sur non à l'alcool, en faire un poster, puis après faire un blog pour pouvoir en discuter avec des gens ou des personnes qui ont peut-être envie de s'en sortir parce qu'ils ont le problème avec ça. Donc, si je peux les aider, c'est sans problème. Mais c'est vrai qu'on est catalogué, on nous prend pour des criminels alors qu'on ne l'est pas du tout. Et puis voilà, quoi. Alors, on fait avec et puis on essaye de vivre. Ouais. Et c'est ce qui compte, hein. C'est live to win.
Exactement.
Vivre pour...
Gagner. Merci beaucoup, Christian, d'avoir partagé ça avec nous. Oui, Quentin, vous voulez réagir? Ouais.
Oui, en fait, je voulais réagir à quelque chose que Suzanne a dit. Elle parlait de « on vous met à la haie et c'est fini ». Et ça, c'est un truc, c'est assez vrai, même en auto-stigmatisation aussi, je pense, parce que pour moi qui suis maintenant à la haie depuis quelques années, j'ai eu pendant très longtemps de la peine à envisager que j'allais pas travailler. Parce que c'est, si vous dites aux gens que vous ne travaillez pas, vous n'êtes plus personne. Mmh. Et donc c'est difficile de renoncer à ce projet-là et de se dire bah, « je vais faire autre chose, je vais prendre soin de moi, de ma santé et de tout ça ». Et puis vous êtes dans une discussion autour d'une table et on vous dit « ah bah, toi tu fais quoi dans la vie ?» mmh. Et qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit « tu fais quoi dans la vie ?» et que vous n'avez pas un travail pour dire ce que vous faites dans la vie ? Ça c'est une grosse question, je trouve. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez du fait qu'à la haie, il ne se passe pas rien du tout. En fait, on n'est pas couché sur son canapé à attendre que le temps passe.
Ouais. Vous avez des exemples, du coup, ce qui se passe concrètement, la réinsertion, s'il vous plaît.
Dans le quotidien ?
Ouais, par exemple, ouais.
Ouais, bah, y a différents projets. Ça peut être des projets, je ne sais pas, musicaux, artistiques, bénévoles. Mais même aussi, moi, je me suis souvent retrouvé à être avec des amis ou des gens que je côtoie. Et à partager mes expériences, justement, et à dire, bah voilà, et ça résonne, en fait, chez les autres. Ils disent, ah ouais, ça les fait aussi peut-être avancer, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on peut vraiment amener, je pense, en tant que personne concernée, c'est l'expérience, et c'est de dire ce qu'on a vécu, comment ça a été, et puis qu'est-ce qu'on en a retiré.
Ouais, merci. Suzanne, vous voulez réagir, ouais.
Moi, quant à moi, j'ai créé une famille. Envers et contre tout. Donc deux enfants. Et c'était la galère. Et 40 ans de galère. Mais aujourd'hui, j'ai sauvé ma famille.
Bravo.
Ouais, bravo.
Quelqu'un d'autre autour de la table ? Oui, Christian, vous voulez rajouter quelque chose ? Ouais. Prenez seulement un micro.
Oui, alors là aussi, un jour, on m'a dit, de toute façon, vous ne pourrez plus jamais travailler dans votre état de santé, etc., etc. Bon. Alors moi, comme je m'étais cassé le dos, je téléphone à la responsable de l'AI, puis elle me dit, mais non, il n'y a pas de souci, vous trouvez, on adapte le contrat, etc. J'ai dit, mais on me balade, et je vous dis, on me met avec des gens où, totalement séniles. Je ne peux pas discuter avec eux, c'est pas possible. Donc, mais bon, on fait avec, et puis, comme le poème, il dit, patience et longueur de temps font plus que force, ni courage.
C'est ça, exactement.
Donc voilà.
Merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'en Suisse, je rebondis sur ce que vous disiez, Quentin, on se définit beaucoup par le travail. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est ancré. Après, bon, on travaille 8 heures par jour, il reste 16 heures. 16 heures, effectivement, à faire autre chose. Donc, c'est peut-être quelque chose qui serait bien de changer quand on demande à quelqu'un, bah, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ça, de ne pas sous-entendre forcément dans quoi tu bosses, quoi. Et qu'est-ce qui te fait vibrer, en fait ? Est-ce qu'on existe en dehors du boulot, quoi ? Oui, Suzanne, ouais. Prenez seulement un micro, ouais.
Moi, on me disait, tu fais quoi dans la vie ? Vous faites quoi dans la vie ? Je disais, bah, je suis mère au foyer.
Mmh. C'est ça.
Et puis j'étais fière.
Ah bah,
mère au foyer.
C'est une
activité. Et ça bouclait le nez ou la bouche à plusieurs. Et seulement, vous voyez, c'était mal vu. Mère au foyer. T'es mère au foyer ? Oui, oui. Et mes enfants, ils n'ont jamais eu la clé autour du cou.
Et c'est une forme de stigmatisation, de mal voir le fait d'être mère au foyer alors que c'est un métier essentiel. Ouais, quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose ? Oui, oui, bien sûr, venez seulement. Comment vous appelez ?
Nora.
Nora, bienvenue. Alors, prenez un micro, oui, on vous écoute. On parle de la stigmatisation en général, mais ouais.
Bah, moi, je suis à l'AI depuis novembre. J'ai eu mes rétroactifs en mars. Et puis, c'est vrai que... En fait, quand les gens te demandent ce que tu fais dans la vie, puis que t'es à l'AI, bah, ils sont là, ils te regardent, puis ils sont là, mais... Enfin, moi, je me ressens un peu comme une merde, en fait. Enfin, je suis désolée de dire le mot. Hein. Et puis, il y a ce truc, comme tu as expliqué, Quentin, bah, tu vas te dire, putain, tu vas rester comme ça toute ta vie. T'arriveras jamais à t'en sortir. Et, bah, en fait, il faut prendre ce temps pour prendre soin de soi. D'où le fait que je suis là. Parce que j'ai beaucoup de choses à régler. Et puis... Bah, ça, là, par exemple, moi, je suis dans une tempête.
Oui.
Faut que je trouve mon phare, le phare qui est ici. Mais le soleil, il reviendra toujours. Et puis, je pourrai toujours faire ce que je veux faire. Moi, je veux être éduque dans les foyers.
Super.
J'ai essayé plusieurs fois de travailler, de faire un apprentissage, mais j'ai pas réussi parce que mon état mental était pas bien. Et puis, j'avais beaucoup de retard là-dessus. Ça fait quand même depuis mes 12 ans que je suis, on va dire, épisode dépressif. Et puis, on m'a diagnostiqué borderline il y a 2 ans et demi. Et anxio-dépressive, du coup. Puis, je fais de l'anxiété chronique. Et puis, en fait, le fait d'être au travail, je me suis fait beaucoup harceler aussi au travail. Ça me rappelait l'école, en fait.
Ah, ouais.
Je me suis fait beaucoup harceler à l'école. Depuis l'école jusqu'en deuxième du cycle. Puis après, j'ai changé, j'étais en école privée, puis moi, j'avais commencé à consommer des joints à 12 ans. Et puis, quand j'avais commencé à fumer d'autres trucs à 14 ans, bon, toujours des joints, hein, mais pas de l'herbe, du coup. J'avais commencé à quelqu'un d'énervé, j'avais fait une carapace, quoi. J'harcelais pas les gens, mais quand je voyais les gens harceler d'autres personnes, je leur pétais la gueule, je pétais un plomb. Désolée de dire ça comme ça. Mais ouais, parce que moi, je suis quelqu'un de gentil, de base, et puis... ouais, il y a certaines culpabilités aussi.
Ouais.
Mais on pourra toujours s'en sortir.
Oui.
Il faut juste se donner les moyens, et puis... c'est dur aussi d'exprimer que ça va pas. Mais il faut avoir aussi un bon cadre autour, que ce soit psychologue, psychiatre, médecin.
Oui, tout à fait, oui.
Voilà.
Ouais. Oui, Plantule, ouais. Prenez seulement un micro.
Merci. Donc, bonjour. Moi, je n'ai pas encore parlé autour de la table. J'ai envie de rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit, parce qu'on parle beaucoup, du coup, de la stigmatisation et de l'AI. Et en fait, moi, je n'ai pas la même expérience du tout que toutes les personnes qui viennent de parler. Pardon. Et du coup, j'observe le truc et je me dis, purée, c'est fou, parce que moi, mon expérience interne, elle est plutôt positive. Comment est-ce que je fais pour me rejoindre cette conversation où je sens qu'il y a en fait plutôt un vécu de souffrance par rapport à ça? Donc en fait, au départ, moi, je suis à l'AI déjà depuis que je suis petite, parce que j'ai un handicap physique. J'ai un handicap physique qui a fait que je suis à l'AI, que j'ai eu des aides, mais j'ai toujours pu faire un parcours comme tout le monde. En tout cas, pour le parcours scolaire et puis le début du parcours estudiantin et ensuite professionnel. Et en fait, j'ai grandi avec cette idée que j'étais comme tout le monde et qu'au final, ce handicap n'allait pas du tout me limiter. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un épisode d'effondrement. Un épisode d'effondrement au début de mon travail. Et en fait, c'est ce qui a mis un petit peu, pas le feu aux poudres, mais qui a fait que tout ce que j'avais mis en place s'est effondré. J'ai une constellation de troubles de diagnostic assez large. Donc, j'entendais avant anxio-dépressif. T'as dit encore, pardon, borderline, voilà. Dans mon cas, j'ai du coup des problématiques physiques, j'ai aussi des troubles de la personnalité, j'ai des troubles dissociatifs et j'ai aussi dans les troubles anxio-dépressifs, j'ai vraiment un truc hyper large et j'ai dû apprendre au moment de cet effondrement à juste me psycho-éduquer sur ces différents aspects et j'ai aussi pas mal de neurodivergences, donc ça fait que je fonctionne déjà de base un peu différemment de la moyenne, mais j'ai pas ce ressenti de d'effondrement, de douleur extrême, de oulala, je vais être en dehors du système, qu'est-ce que je vais faire et tout, parce que, alors à nouveau, je sais pas si ça vient de la constellation complexe de troubles que j'ai. J'ai tout le temps un projet sur le feu. Je ne sais pas comment dire. Donc déjà, de base, j'ai eu un parcours professionnel et estudiantin hyper fourni où j'ai fait plein de formations différentes. J'ai eu plusieurs diplômes. J'ai bossé dans différents domaines. Et quand on me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? En général, je ne dis pas que je suis à l'AI. Je dis, moi, je suis horlogère, mais aujourd'hui, je suis à l'AI. Parce que c'est le diplôme que j'ai obtenu. Et parce qu'en fait, ça permet quand même à la personne en face de dire « Ok, il y a une double réflexion. » La personne, elle ne peut pas juste se dire « Ok, cette personne est à l'AI. » Et puis, je m'arrête sur « Elle est en situation de handicap. C'est sûrement pour ça qu'elle est à l'AI. » Et d'une certaine façon, ça ouvre un petit peu le dialogue sur quelque chose d'un peu plus large. Et alors, je dirais que je suis à un stade de ma vie où je n'ai pas honte de parler des différents diagnostics que j'ai. Donc... je suis plus dans des projets de dialogue, de discussion, de père aidance. Et puis, on viendra plus tard sur le sujet que j'ai proposé. Mais j'avais quand même envie de dire que moi, je suis à l'AI. Maintenant, je suis à l'AI, pas pour mes pathologies physiques, mais plutôt pour mes problématiques psy. Et en fait, je le vis trop bien. c'est pour ça que je me disais, mais il faut que je le dise. Mais moi, je suis trop contente. Pourquoi ? Parce que j'ai enfin le temps de m'occuper de ma santé, de m'autoriser en fait à vivre, à me dire, tout ce que j'ai pas eu le temps de faire avant, parce que j'étais en mode survie et tout, aujourd'hui, je peux le faire. Et parce que je peux le faire, j'ai la disponibilité émotionnelle de discuter avec les autres, de réfléchir à mes projets, de mettre en place justement des choses de père aidance, que si j'avais continué en fait à être dans le mode survie hors de l'AI pour le coup, j'aurais pas eu l'énergie du tout de le faire. Voilà. Ouais. Donc je voulais quand même dire que moi je fais partie des gens qui sont contents. Ça me soulage beaucoup et ça me donne une disponibilité relationnelle aux autres. Voilà.
Merci. Oui, c'est-à-dire que l'AI, c'est... Si j'essaie d'aller dans votre sens, c'est un peu aussi la manière qu'a la société de dire on est tous différents et c'est ok. Voilà, il y a cette assurance qui est mise en place pour que justement les gens puissent prendre soin d'eux. Les gens n'aient pas à se soucier de je vais devoir payer mes factures. Non, ça, ok, c'est fait. Et puis maintenant, c'est essayer de se ressourcer, essayer de comprendre ce qui nous arrive et puis comment vivre avec. Est-ce que ça joue ? Ok. Oui, Quentin, ouais.
Oui, alors d'abord, j'aimerais assez rejoindre Plantul par rapport à cette histoire d'être content d'être à l'AI. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment très content de là où je suis et de pouvoir aussi prendre soin de moi et d'avoir du temps. Et ce qui est fou, c'est que en fait, les semaines sont bien remplies, mais c'est juste que entre les différentes activités, il y a la possibilité d'avoir des temps de battement, et ça, c'est hyper précieux pour se reposer, se ressourcer. Et puis avant, c'était avec par rapport à Nora, c'est juste Nora, oui, que je voulais réagir. Ça m'a fait penser le fait que ce soit difficile aussi d'appeler à l'aide et de demander de l'aide dans un contexte où c'est stigmatisé. C'est marrant parce que moi j'ai aussi un suivi avec un psychiatre et on discutait dernièrement du fait que le monde en fait est pas forcément incroyablement raisonnable en fait, et que donc on vous dit vous êtes pas adapté à ce monde dans lequel on vit. Mais en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi être malade dans un monde malade ? Ça veut dire quoi être fou dans un monde fou ? En fait, on peut renverser la question, en réalité, avec cette notion d'être inadapté et d'être handicapé, en fait, parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Tout à fait, oui. Merci beaucoup pour ce partage. Je vous propose que le thème est vaste. Les autres thèmes vont un peu dans le sens de... On va pouvoir développer pas mal d'aspects. Je vous propose qu'on marque une courte pause musicale avec un morceau qui a été proposé par Suzanne, qui est L'étranger de Graham Allwright.
Connu te disait qu'il ne voulait plus donner les cartes prises comme dans un piège. C'est dur de retenir la main d'un homme qui cherche plus loin, qui veut atteindre le ciel pour se livrer, et qui veut atteindre le ciel pour se livrer. Puis ramassant les cartes qui sont restées là sur la table, tu sais qu'il t'a laissé très peu, pas même sans rire. Comme tous les joueurs, il cherchait la carte qui est si délirante qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Un jour penché à ta fenêtre, il te dira qu'il veut renaître au monde que ta tendresse lui cache. Et sortant de son portefeuille un vieil oreiller de train, il dit: je t'avais prévenu, je suis étranger. Je t'avais prévenu, je suis étranger. Maintenant un autre étranger semble vouloir que tu ignores ses rêves comme s'ils étaient le fardeau de quelqu'un d'autre. Tu as vu cet homme déjà donner les cartes avec son bras en or, mais maintenant tu vois sa main est figée. Oui, maintenant tu vois sa main est figée. Mais tu n'aimes pas regarder un autre homme fatigué déposer toutes ses cartes comme une défaite, tandis qu'il rêve jusqu'au sommet. Dans l'ombre tu vois comme une fumée une route qui monte derrière sa tête, une route qui monte derrière sa tête. Tu lui dis d'entrer et de s'asseoir, mais en te retournant, tu vois que la porte de ta chambre reste ouverte. Et quand tu prends sa main, il dit: n'aie pas peur, ma tendre amie, ce n'est plus moi, oh mon amour, l'étranger. Ce n'est plus moi, oh mon amour, l'étranger. J'ai attendu toujours certain de te revoir entre les trains. Bientôt il va falloir en prendre un autre. Oh, je n'ai jamais eu, tu sais, pas le moindre plan secret. Ni personne peut me conduire. Et tu te demandes ce qu'il cherche à dire. Oui, tu te demandes ce qu'il veut dire. En bas au bord du fleuve, demain je t'attendrai, si tu veux bien, là tout près du pont qu'ils construisent. Puis quitte le quai pour un wagon-lit, tu sais qu'il cherche un autre abri, qu'il n'avait jamais été un étranger. Qu'il n'avait jamais été un étranger. Et tu dis: d'accord, le pont ou bien ailleurs, je viendrai. Puis ramassant les cartes qui sont restées là sur la table, tu sais qu'il t'a laissé très peu, pas même sans rire. Comme tous les joueurs, il cherchait la carte qui est si délirante qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre. Un jour penché à ta fenêtre, il te dira qu'il veut renaître au monde que ta tendresse lui cache. Et sortant de son portefeuille un vieil oreiller de train, il dit: je t'avais prévenu, je suis étranger. 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 Je t'avais prévenu.
De retour sur les ondes de Pavillon Nomade, nous allons aborder notre deuxième thème qui a été proposé par Suzanne, qui est le suivi thérapeutique. Alors Suzanne, on vous écoute.
Alors oui, je dirais que ma famille est la plus précieuse dans ma vie, mais elle m'a donné du fil à retordre. Et je n'ai pas eu droit au suivi thérapeutique, c'est-à-dire on me mettait la pression, c'est-à-dire ma famille, parce qu'ils ne comprenaient rien. On mettait la pression de ne pas avoir de suivi thérapeutique. Parce que, tout simplement, ça les mettait en cause. Ça dévoilait leur incapacité à me comprendre et à me rejeter. Leur façon de me rejeter. Et je le dis haut et fort, j'ai dû mettre ma famille à l'écart pour enfin respirer. Enfin, me créer mon foyer, le mien. Et j'ai galéré 6 ans pour me fonder un foyer. Et maintenant, j'ai un suivi enfin thérapeutique. Mais quelle aubaine! Et vous, ma famille, je vous adore! Je vous aime vraiment de tout mon cœur. Je vous ai toujours aimé. Mais vous n'avez pas été juste. Vous n'avez pas été formidable avec moi. Vous avez dit, on ne comprend pas, on ne te comprend pas, tu es bizarre, etc. Je crois que c'est plutôt vous qui êtes bizarre. Parce que moi, je mérite autre chose que votre façon de me traiter. Qu'elle a été pendant 40 ans.
Merci beaucoup, Suzanne. Quelqu'un veut réagir, prendre la parole? Oui, Plantule, oui.
Alors, par rapport au suivi thérapeutique, je crois que, comme Nora, elle disait tout à l'heure, elle a parlé de ses difficultés qui sont apparues autour de ses 12 ans. Moi, mes symptômes anxio-dépressifs, ils étaient là aussi très, très tôt. Mmh. Désolée, je vais faire un trigger warning par rapport... à ce que je vais raconter, mais ma première tentative de suicide, je l'ai faite quand je devais avoir 6-7 ans. Voilà. Donc, c'est vraiment hyper tôt. Je ne me rappelle pas pourquoi, mais ça remonte à vraiment très, très tôt. Et voilà. Donc, en fait, le trouble anxieux et le trouble dépressif, c'est vraiment un truc que je traîne derrière moi depuis très, très longtemps. J'ai un parcours aussi. Enfin, j'ai une histoire aussi. Je vais pas forcément venir en détail là-dedans. Mais disons qu'au moment de l'adolescence, on m'a encouragée à aller consulter parce que du coup, je pense que les symptômes dépressifs, ils étaient beaucoup plus visibles. Et puis, je voulais pas. Donc, moi, j'ai eu la chance qu'on me propose de l'aide, disons très, très tôt et qu'on me dise « mais c'est important et tout » parce que je sais que on n'est pas tous égaux par rapport à juste le fait que les gens voient, entendent et proposent. Sauf que j'ai refusé. Pendant très très longtemps, j'ai refusé. Ça fait partie de mon histoire et tout. Et à un moment donné, je pense que quand je me suis retrouvée en sécurité par rapport aux personnes qui généraient du stress et de la souffrance, j'ai pu m'autoriser à les consulter en fait pour la première fois. Et là, en fait, ça venait de moi. Donc j'étais d'accord avec la démarche, alors qu'avant, c'était l'inverse. Et ça a été salvateur, je pense, parce que ça m'a permis démystifier le suivi thérapeutique, de me dire, OK, je ne vais pas me retrouver avec quelqu'un qui essaie de me manipuler pour m'enfermer à l'hôpital, parce que j'avais très peur de ça. Alors qu'en fait, non, le projet, il n'est pas du tout le même. Et je pense que je pourrais dire, ça doit faire depuis ma vingtaine que j'ai un suivi psy régulier tout le temps avec quelqu'un. Et j'ai fini par trouver la bonne personne, les bonnes personnes dans le suivi thérapeutique, mais il faut que ça vienne de soi, en fait. Je trouve que c'est facile, justement, de dire aux gens et qu'il y ait cette injonction à se soigner, à aller mieux. Mais en fait, il faut que les paramètres environnants permettent de mettre en place ce type de démarche. Parce que, ben voilà, je dirais, il suffit qu'il y ait un proche qui soit violent et qui interfère dans le processus de soins thérapeutiques, ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc il faut une certaine sécurité autour pour que ce soit efficace. Voilà.
Merci.
C'était
beaucoup.
Pour rebondir sur les 40 ans à attendre pour pouvoir avoir un suivi thérapeutique.
Mmh. Oui, merci beaucoup, Quentin.
Oui, moi je voulais réagir sur la notion que c'est difficile de mettre en place un suivi thérapeutique pour plusieurs raisons. D'abord parce que demander de l'aide, c'est être faible, c'est reconnaître sa propre faiblesse. Et dans le cas de la psychiatrie, c'est être faible d'esprit, ce qui est encore pire. On est sur un système où, encore une fois, vouloir, c'est pouvoir. Donc si on veut aller bien, on va aller bien. Donc si tu vas pas bien, c'est que tu veux pas aller bien. Donc voilà, ça c'est la première chose. Moi, mon père, pendant assez longtemps, je l'ai entendu dire que les psys, c'était le fléau du 21e siècle. Donc quand tout d'un coup, je me retrouve hospitalisé à 20 ans et puis que tout d'un coup, je suis avec des psys et je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis en pleine décompensation, je sais plus où je suis dans une chambre fermée. Donc là, ça devient tout autre chose. Les enjeux sont pas les mêmes. Et puis, la deuxième chose qui rend, à mon sens, extrêmement difficile la mise en place d'un bon suivi, parce qu'il y a un suivi et il y a un bon suivi, c'est qu'en fait, le milieu médical, c'est un vrai labyrinthe. Et si on ne s'y connaît pas, c'est hyper difficile à naviguer. Et ça, c'est un truc que j'ai connu depuis le début de mes hospitalisations, c'est qu'en fait, tout d'un coup, par défaut, vous vous retrouvez avec un suivi psy. Peut-être le psychiatre ou la psychiatre, il ne vous convient pas, humainement ou autre chose. Et vous pensez même pas que vous pouvez changer, en fait. Vous êtes pas en train de vous dire « je suis client et le client est roi ». C'est pas ça du tout la logique. Et puis, bah, y a les psys, y a les assistants sociaux, y a les ergothérapeutes. Et on sait pas, en fait, très bien qui... On sait pas que demander, à qui, comment. Même pour faire une demande à l'AI, c'est pas évident. J'ai eu de l'aide d'une ergothérapeute qui m'a dit à un moment donné, mais monsieur Besson, ça serait quand même bien de faire une demande à l'AI. J'ai fait ça avec elle, mais seul, j'aurais jamais pu. Et en fait, on s'attend à ce que les personnes sachent. Alors, on ne sait pas d'où, parce qu'on n'est pas éduqué à ça. Personne n'est éduqué à aller s'orienter dans le système médical, et même au sens plus large. Hein, ce n'est pas qu'en psychiatrie, parce que pour avoir aussi été en neurologie ou à d'autres endroits, je sais que c'est extrêmement compliqué pour avoir... Déjà pour qu'on vous considère comme un humain et pas comme un objet qu'on va manipuler et envoyer chez quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Ah, je vous envoie chez tel et tel spécialiste parce que voilà. Vous n'avez pas votre mot à dire alors qu'en fait, vous devriez l'avoir. Donc ça, c'est difficile, je pense, pour le suivi.
Merci beaucoup. Oui, Plantule, vous voulez... Oui. Ou Christian, peut-être ? Allez-y.
Oui, alors moi, je suis tout à fait d'accord. Parce que, en fait, il y a des médecins, enfin des médecins, si on peut appeler ça, des médecins qui sont là, puis on a vraiment l'impression qu'ils vous placent ou ils vous donnent des médicaments uniquement pour une question, excusez-moi du terme, de pognon. Donc on vous place dans des endroits et puis qui ne vous conviennent pas, puis il faut faire des démarches monstrueuses pour pouvoir en sortir, ce qui n'est pas normal. Et puis voilà, quoi. Moi, je sais ce que j'ai vécu et ce que je vis encore. Quand on veut m'administrer des médicaments qui ne me conviennent pas du tout, et puis que la personne qui soi-disant me prescrit ces médicaments pour soi-disant m'aider, parce que voilà, moi, on m'a donné des médicaments... comme le Seresta et autres, où j'avais des troubles de la vision, des pertes d'équilibre, enfin, j'avais l'impression d'être bourré à 3 pour 1000. J'ai dit que ça ne me convenait pas. Alors tout d'un coup, ils refusent de prendre les médicaments. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Et puis on voit un médecin, puis le médecin, puis rajoute, et puis ça va pas. Là, maintenant, moi, je vous dis, j'ai juste de quoi pour la pression, parce qu'à un moment, j'étais à plus de 200. Et puis pour dormir, quoi, puis c'est tout. Puis je prends, vers 23h30, puis je dors jusqu'à 6h sans problème. Mais voilà, quoi. Non, il y a vraiment des personnes, c'est pour l'argent plus que des compétences. Puis voilà.
Merci beaucoup. Et Plantule, vous vouliez réagir tout à l'heure.
Je voulais réagir tout à l'heure à ce qu'a raconté Quentin par rapport à la difficulté de demander les bonnes aides, de connaître le système et connaître les aides. Et je voulais raconter juste cette anecdote parce que moi, ça a été un gros tournant dans mon parcours psy. Je ne me rappelle plus exactement si c'était lors de ma première ou deuxième hospitalisation à Malévaux, parce que j'en ai aussi fait plusieurs ici. On m'a proposé une fois de rencontrer les assistantes sociaux du quartier, de Malévaux, de la structure. Alors, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, parce que maintenant, ça fait bientôt 10 ans que c'est arrivé. Mais en fait, je suis tombée sur une personne vraiment super, qui était vraiment incroyable et qui a amorcé des débuts de démarches avec l'AI, de demandes. Et je me rends compte aujourd'hui avec le recul que j'aurais été en incapacité de le faire pendant l'hospitalisation et même en dehors, après coup, parce qu'en fait, ça demande une énergie assez considérable et aussi de comprendre en fait ce qu'on nous demande. C'est de l'administratif. C'est vraiment de l'administratif. Et cette personne, elle a vraiment hyper bien fait le taf et elle a permis de poser en fait des bases pour des demandes qui sont arrivées plus tard, qui se sont rajoutés, qui se sont greffés dessus, et ça a mis du poids aux demandes. Mais en fait, je me rends compte à quel point ça a été une chance. Mais il a aussi fallu que moi, je m'autorise au moment de l'hospitalisation, de me dire, ok, je vais sauter le pas d'aller voir une nouvelle personne qui, on me propose de l'aide. Et puis peut-être ça passe, peut-être ça passe pas, peut-être c'est pas ce que je demande. Et en vrai, ça a été vraiment le début de la lumière dans le couloir. Je sais pas vraiment quelle métaphore utiliser, mais c'était vraiment un début de quelque chose. Il y a eu le début avec les ergothérapeutes, les travailleurs dans le pavillon où j'étais. Après, je garde quand même en tête que Malévaux, c'est un espace que je considère comme... c'est un espace pour un moment où je suis en crise, donc je sais que j'ai pas les facultés pour mettre en place des choses complexes. Je dois vraiment me concentrer sur des trucs beaucoup plus simples. Mais d'avoir été au contact d'ergothérapeutes bienveillants, j'ai pas fait toutes les activités proposées, mais en fait ça redonne de l'espoir pour se dire ok, une fois que je serai dehors, je peux commencer à réfléchir à mettre en place des choses. Mais il faut avoir l'énergie, parce que à nouveau, c'est essayer une personne, si ça ne fonctionne pas, c'est essayer une autre. Et puis en fait, à chaque fois que ça ne fonctionne pas, il faut se remettre et retrouver l'énergie nécessaire pour essayer une nouvelle personne. Quoi. Donc c'est vraiment, c'est vrai que c'est un parcours du combattant. Voilà, c'est pas une donnée gratuite et ok, faites-le, c'est facile, ça va bien se passer. Quoi.
Non, effectivement, oui. Ouais. Merci. Oui, Suzanne, oui.
Je voudrais encore dire... que j'avais toute la charge en tant que bipolaire et chronique. J'avais toute la charge des enfants, c'est-à-dire un chalet à nettoyer de 3 étages, plus un autre petit chalet. Toute la responsabilité des enfants, le pédiatre... mon fils avait un temps, il disait pas les R ni les S. J'ai dû aller 2 ans pour chez la logopédiste. Enfin bref, j'avais toutes les responsabilités et mon mari se réfugiait uniquement dans le travail. Ce qui est beau de travailler, d'accord, mais hormis tout, le travail lui prenait absolument tout. Donc, c'était une fuite.
Merci, Suzanne. Oui, Quentin ?
Oui, je voulais réagir un peu par rapport à ce que disait Christian. C'est qu'en fait, je pense qu'aussi, il y a une grosse question dans ces suivis thérapeutiques, c'est la question de la maltraitance. Parce que rien que vous allez face à un médecin, le médecin, c'est quelqu'un qui sait. Et puis, il se positionne comme quelqu'un qui sait et il vous balance un truc. Et il y a très rarement des médecins qui ont une approche, on va dire, système, qui tiennent compte de qui vous êtes et de ce que vous avez comme problème et quel est votre système et comment les choses interagissent et tout ça. Et c'est extrêmement difficile d'avoir une vision d'ensemble, en fait. Et en fait, à un moment donné, moi, j'avais l'idée, je me disais, il faut que j'ai un case manager, en fait, pour ma santé. Et en réalité, le problème, c'est que ça fonctionne pas. Vous pouvez pas faire ça. Le case manager, ça doit forcément être vous, en fait, en tant que patient. Et puis, je voulais dire aussi, je fais un lien avec cette maltraitance, avec un thème qui me tient assez à cœur aussi, qui est la notion de contrainte, parce que ça, c'est un truc qui pose beaucoup de questions, et notamment en psychiatrie. Et on ne sait pas très bien, même moi aujourd'hui, qui ai subi ça, par exemple des piqûres forcées ou des choses comme ça, c'est difficile de dire est-ce que c'était adapté ou est-ce que ça ne l'était pas, en fait. Et sur le moment, ça nécessite énormément de violence, en fait. Et il y a un côté, je ne sais pas comment dire, une sorte de maltraitance. Ça peut être une maltraitance nécessaire, en fait, malheureusement. Donc voilà, c'était ça que je voulais pas, c'est ça que je voulais dire. Dans le suivi, il y a le problème de la maltraitance. C'est pas seulement ne pas être bien traité, c'est être maltraité. Voilà.
C'est ça, oui. Merci beaucoup. Oui, Suzanne.
En bref.
Oui, reprenez-moi.
En bref, il y a 6 ans, j'ai quitté le chalet pour des commodités, pour me créer un foyer. Et j'étais obligée, j'étais une épave. Une épave. Les médecins disaient. Vous êtes irrécupérable.
Merci beaucoup, Suzanne. Nora, oui, vous vouliez, oui, vous prenez seulement un micro, on vous écoute.
Là, on m'entend là ?
Oui.
Ok. Moi, je suis sortie de cure il y a 2 mois pour de la kétamine. Et j'ai eu une mauvaise expérience au niveau des médicaments, donc on m'a surdosé. Puis je suis à 200 mg de tramadol par jour. Puis si j'ai pas, je crie de douleur. Et puis je suis là aussi pour faire un sevrage de ça. Parce que j'ai perdu énormément de poids en sortant. Je faisais 49 kilos quand je suis sortie. Et puis, du coup, de ma cure. Et puis j'ai perdu 11 kilos. Là, je fais 38. Puis tout le temps, envie de m'évanouir et tout ça. Puis en plus, j'arrive plus à manger. Ouais. Et puis, c'est compliqué. Donc là, je dois boire des trucs liquides. Mais ouais, quand je vois la bouffe, vu qu'il fait chaud, j'ai presque envie de pleurer. Puis mon ventre, il est plus habitué. Puis ça fait un mois que je mange plus, quoi. Et puis au moins, j'ai pu voir la diététicienne aujourd'hui. Et puis on va trouver une solution au niveau de ça, quoi. Mais c'est vrai que là, j'avais bu mon truc liquide, j'avais direct envie de vomir, quoi. Je trouve que c'est de la maltraitance en soi, parce qu'ils savaient pas quoi faire avec moi. C'était un cas soi-disant trop dur. Du coup, toutes les semaines, ils me changeaient Valium. Ils m'avaient mis des Temestax, Xanax, tout ça. Puis maintenant, je suis sous Rivotril, 6 mg. Donc, c'est quand même beaucoup, surtout avec mon poids et puis que je mange pas. Et puis avec le Tramadol, c'est vraiment de la merde, parce que si t'en prends pas, ça te fait... des douleurs, mais abominables. Plus avec le sevrage de kétamine, ça te fait encore plus mal au ventre. Ouais, il y a tout mon corps qui se crispe. Puis j'ai des problèmes urinaires, là. Si je bois pas assez d'eau, j'ai mal à l'urètre. Comme si on m'avait planté des aiguilles, quoi. Puis j'ai peur d'aller pisser, parce que j'ai peur d'avoir mal. Puis je dois aller à la douche, sinon, pour que ça se détende, et puis que je pisse. Mais c'est un peu dégueu, mais bon. Après, je me lave, hein, quand même. Puis je lave la douche et tout ça, mais... Je trouve ça dégueulasse, en fait. Parce qu'en fait, après, le truc, c'est qu'après, on n'a plus confiance aux médecins. Parce qu'ils t'écoutent, mais ils sont là en mode, ouais, c'est trop compliqué. On va lui donner ce qui va la shooter le plus, quoi. Puis après, il y a ce truc où on est là, mais en mode, mais en fait, ils sont là que pour notre thune. Après, moi, j'étais dans un truc semi-privé. Ils ont vraiment fait de la cac. Mais avec plein de patients. J'avais eu aussi une histoire avec une fille qui faisait un sevrage d'héroïne. Elle avait dit aux infirmiers, il ne faut pas me donner de kétiapine, je ne supporte pas. Et la chef des infirmières, on a tous eu des soucis avec elle. Elle lui a mis de la kétiapine en secret. Ouais. Voilà. Mais ouais, non, c'est super, super grave parce que...
avec ça, 25 mg, je dors toute la nuit.
Ouais, moi j'étais à 25 mg, puis après j'étais à 50, puis j'ai dû monter à 100, mais là je dors 3 heures par nuit. Donc, il faudrait que je demande aux médecins pour qu'on me passe des somnifères, parce que c'est pas possible, je suis fatiguée. Quoi.
Oui, Quentin, vous vouliez réagir.
Oui, merci. Ça me fait un peu penser à des choses que j'ai vécues, et je pensais notamment à la notion, je sais plus où j'ai trouvé ça, qu'un médecin qui vous prescrit 3 médicaments Il est déjà en train de faire l'apprenti sorcier par rapport aux interactions, parce qu'il n'y a rien qui documente les interactions entre trois médicaments, jamais. C'est les interactions, elles sont documentées sur deux maximum, et puis jamais sur trois. Mais bref, parenthèse refermée. Et du coup, en fait, ça m'a fait penser à ma première hospitalisation, où ça s'est passé mal du début à la fin. D'abord, j'ai reçu un neuroleptique que j'ai très mal supporté. Et après, j'ai été de plus en plus délirant et ils voulaient de plus en plus me contenir et c'était de plus en plus l'horreur. Et à la fin, j'étais en blackout à 90% du temps. Je refusais de manger. Même quand mes parents me donnaient à manger, je ne voulais pas manger. Et à la fin, j'ai refusé de boire. Donc quand j'ai arrêté de boire, ils m'ont envoyé dans un hôpital normal pour me réhydrater. Ils ont dû le faire deux fois. Et la deuxième fois, c'est un médecin de garde qui a dit « Écoutez, on va arrêter de lui donner des médocs, on va le laisser se calmer un peu tout seul. » On lui met une dose minimale et on regarde ce qui se passe parce que c'était plus possible. Quoi. Donc vraiment, des fois, c'est un peu, on a l'impression que c'est la réponse par défaut, c'est mettre un médoc. Et s'il y a un problème, si le médoc cause un problème, on met un autre pour répondre au premier problème. Et après, ça fait des effets en chaîne et on n'en sort plus.
Oui, Suzanne, une dernière chose. Oui.
Juste une question, c'était le risperdal?
Non, c'était l'aldol. Le
oh, l'aldol. Moi,
oui, merci beaucoup pour ces témoignages, Louis. Donc, c'est vrai qu'on peut se retrouver pris dans une spirale médicamenteuse où le dialogue a malheureusement disparu. Et c'est vrai que c'est important justement de trouver un équilibre dans ce qui est du suivi thérapeutique. Merci en tout cas pour ces beaux échanges. On avait Patricia qui nous proposait un moment de poésie. On va l'écouter, on va lui donner un micro. Et puis, voilà, juste le temps qu'elle se prépare. Il y a beaucoup de vent sur la terrasse. Il fait beau, on est tous contents. On a tous un peu chaud. Voilà, Patricia, on vous écoute quand vous voulez. Oui.
Bonjour et merci beaucoup. Je suis très bouleversée, émue par tout ce que j'ai entendu. Voilà. Il faut que je me remette.
Oui, c'est normal. Oui. Prenez le temps.
Alors, oui, en effet, c'est une poésie que j'ai envie de lire. Et c'est par rapport à l'hôpital, je peux dire que c'est par rapport à l'hôpital, parce que j'ai rencontré quelqu'un, on se croisait souvent sur le chemin de chez moi, un monsieur déjà d'un âge certain, qui discutait avec moi à chaque fois un petit peu, et qui était patient à l'hôpital. Et un jour, il me dit, voilà, je cherche quelqu'un qui écrive un texte pour moi, sur un sujet, et que cette personne publie ce texte sur Internet. Parce que moi, je ne peux pas, etc. J'ai dit, d'accord, écoutez, moi, je ne peux pas non plus. Parce que j'étais nulle avec Internet, j'étais très mal informée là-dessus, tout, puis que ce n'est pas mon truc. Et je lui ai dit, mais dites-moi le titre, et je vous écris quand même un petit texte, puis je vous porterai le texte. Alors, il m'a dit, « Terre qui rêve ». Et quand il m'a dit « Terre qui rêve », ça m'a fait un choc. J'ai trouvé tellement beau. Voilà. Ça me ressort les émotions. Et je lui ai dit, d'accord, je vais vous écrire un texte. Donc, il m'a donné ce titre, Terre qui rêve, et j'ai écrit. Je vais essayer de le lire sans pleurer.
Même si vous pleurez, c'est pas grave. On est avec vous.
Voilà, parce que je suis très, très émue. Oui. Excusez-moi. Terre qui rêve. De milliers d'étoiles tissées de lumière, terre rêve sans trêve d'un monde parfait. Du fond du ciel ombré d'éternité, terre appelle sans appel une joyeuse maternité. Mon esprit se pose et te rencontre, terre vibrante et transparente. Et d'un commun accord, nous jouons ensemble des notes enivrantes de tes premiers accords. Belle, éternelle et rebelle, te voilà dansant ta danse, pleine de ton corps nouveau, tu façonnes le mien à ta ressemblance. Ô terre, terre qui rêve, que sont tes cauchemars? Emporte-moi dans tes tréfonds, et que de ta naissance, je revive l'histoire. Merci.
Magnifique, bravo.
Je précise que je n'ai pas pu donner le texte à ce monsieur qui s'appelle Maurice. Je ne l'ai jamais revu. J'ai essayé de le trouver, j'ai demandé. J'ai confié le texte à quelqu'un qui le connaissait peut-être, mais je n'ai pas de nouvelles. Voilà.
Ben maintenant, il est parti dans l'univers. Peut-être qu'il l'aura entendu.
Et si ça peut faire du bien à qui que ce soit, nous ramener à nos racines pour nous stabiliser. Merci.
Merci. Et vous vouliez dédicacer aussi un morceau. C'est juste, ouais, vous prenez seulement le micro. Ouais, ouais.
Je m'excuse, je suis encore troublée.
Aucun problème.
Oui, je voulais dédicacer un morceau à François Badou, qui a fait le premier atelier théâtre auquel j'ai pu participer, moi. Il en a fait d'autres, hein, certainement. Et puis, c'est en souvenir d'un cadavre exquis qu'on avait fait. On avait fait 3 cadavres exquis et il y en a un dans lequel il y a une chanson qu'il ne connaissait pas du tout. Et je lui dédie cette chanson. Merci beaucoup.
Le vent me pousse sous les pieds des passants. Le vent m'emporte où je ne veux pas aller. Et les secousses m'écrasent, me chiffonnent. Y a-t-il quelqu'un, un humain pour m'aider, m'aider, m'aider? Je me trémousse, ce n'est pas pour danser, mais j'ai la frousse d'être encore déchiré. Je suis le déchet qu'on a jeté négligemment dans la rue en balade. Jeu de plastique, vieux mégot de cigarette. Rien n'est trop beau pour faire la fête, mais moi, je reste là, tout moche, tout sale, tout plat. Mettez-moi à la poubelle, où pour moi la vie est belle. Traitez-moi avec respect de ceux qui m'ont fait. Je me trémousse, ce n'est pas pour danser, mais j'ai la frousse d'être encore déchirée. Et les secousses m'écrasent, me chiffonnent. Y a-t-il quelqu'un, quelqu'un au téléphone? Le vent me pousse sous les pieds des passants. Le vent m'emporte, vous apporte mon chant. Mettez-moi à la poubelle, où pour moi la vie est belle. Traitez-moi avec respect de ceux qui m'ont fait. Mettez-moi à la poubelle, où pour moi la vie est belle. Traitez-moi avec respect de ceux qui m'ont fait, de ceux qui m'ont fait.
La minute d'Elvio.
Je vais vous présenter Projet de la dernière chance avec Ryan Gosling, son dernier film qui se passe dans les étoiles. Alors imaginez que vous vous réveillez un matin avec un mal de crâne monumental, incapable de vous souvenir de votre nom, de votre adresse ou de la raison pour laquelle vous flottez dans un vaisseau spatial à des années de lumière de chez vous. Voilà le genre de lundi qui vit Ryan Gosling, un professeur de sciences qui découvre rapidement que son agenda est légèrement plus chargé que prévu. Le film jongle habilement entre suspense, humour et vulgarisation scientifique. Si à l'école, les cours de physique vous donnaient envie de contempler le plafond, rassurez-vous, ici les expériences servent surtout à éviter des catastrophes cosmiques. On insiste à une succession de problèmes improbables résolus avec beaucoup d'intelligence. Et parfois, avec la méthode universelle du scientifique en panique, oh, essayons ça, on verra bien si tout n'explose pas. Ryland est loin d'être un héros invincible. Il doute, improvise, fait des erreurs et passe une bonne partie de son aventure à négocier avec des objets qui refusent obstinément de fonctionner comme prévu. En somme, c'est un peu comme monter un meuble sans notice, sauf que le meuble est un vaisseau spatial et que la garantie ne couvre pas la fin du monde. L'un des grands plaisirs du film réside dans son mélange de science crédible, de situations absurdes et de dialogues pleins d'autodérision. L'humour ne cesse jamais, l'attention Il rappelle simplement que lorsqu'on porte le destin de l'espèce humaine sur ses épaules, il est encore possible de se ridiculiser en flottant maladroitement dans un couloir. Visuellement, Projet de la dernière chance offre un véritable voyage spatial avec des décors impressionnants et une mise en scène qui alterne moments spectaculaires et instants plus intimes. Les énigmes scientifiques s'enchaînent comme des casse-têtes géants, donnant parfois l'impression d'assister à un mélange improbable entre un documentaire de vulgarisation, une aventure spatiale et un épisode de MacGyver, mais tout cela dans l'espace. En résumé, c'est une aventure de science-fiction qui parvient à être intelligente, sans être prétentieuse, drôle sans tomber dans la parodie et émouvante sans forcer les violons. Si vous aimez les films qui vous donnent envie de regarder les étoiles en vous disant c'est magnifique, mais je préfère quand même avoir le wifi. Vous devriez passer un excellent moment.
Merci Elvio pour cette chronique. Moi je suis allé le voir au cinéma et c'est vrai que c'était super. C'était très étrange mais j'ai passé un super moment. Ouais. Merci beaucoup. On va passer au dernier thème de l'émission qui a été proposé par Plantule et qui est les ressources. Alors est-ce que voilà, je vous donne la parole.
Oui. Alors, comme ça s'inscrit assez bien dans la suite de tout ce qu'on vient de discuter, je voulais aborder la question des ressources. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est toujours bien de se concentrer aussi sur ce qui donne de l'espoir, parce que c'est des vécus, des parcours et des expériences très très difficiles. Donc voilà, je me disais que c'était intéressant qu'on discute un petit peu des ressources. Déjà parce que comme on disait tout à l'heure, c'est très compliqué de réussir à solliciter de l'aide et ensuite de trouver les thérapeutes avec qui on se sent bien dans le réseau thérapeutique. Et en fait, je trouve intéressant de discuter des personnes qui sont dans ce réseau thérapeutique parce que j'ai l'impression que dans le parcours psychiatrique, la première chose à laquelle on pense, c'est le psychiatre. Le psychiatre. Et alors qu'en fait, il y a beaucoup plus d'intervenants que ça. Et tous ces intervenants ne font pas la même chose. Et moi, je trouve qu'il y a un côté de collaboration et de... Les corps de métier se complètent assez bien. Et au final, je trouve que la personne à qui on donne le plus d'importance est la personne qui va en fait avoir... C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais le moins d'impact concret dans le quotidien des patients. Pourquoi je raconte ça ? Parce que si je prends par exemple mon réseau thérapeutique, qui a mis un long moment à se mettre en place, j'ai tout le temps un ou une psychiatre, j'ai un ou une psychologue, j'ai essayé les infirmières en psychiatrie, j'ai eu ergothérapie, donc ergothérapeute en psychiatrie, et il y a aussi d'autres corps de métier que j'ai pas vraiment, j'ai pas tellement essayé, mais c'est déjà beaucoup. Je trouve que ce qui est intéressant avec les ergothérapeutes qui peuvent intervenir, il y a tout ce côté de s'autoriser à faire une activité autre que se concentrer sur l'aspect psychiatrique des diagnostics qu'on peut avoir. Et en fait, de revenir à des choses beaucoup plus simples, comme juste faire des activités qui nous font plaisir, ou alors réapprendre à faire des choses simples comme la cuisine, les courses, ou sortir de chez soi selon... Et en fait se concentrer sur des choses simples qui permettent de renforcer l'estime de soi, parce que souvent après un passage à l'hôpital, un épisode de crise ou alors un diagnostic qui tombe, il y a une espèce de dégringolade de l'estime de soi. Il y a tout ce qu'on a discuté tout à l'heure sur s'approprier le diagnostic, voir si l'entourage est aidant, soutenant ou pas dans ce qui se passe, est-ce qu'il y a de la psychophobie dans l'entourage proche ou pas. Et puis savoir qu'est-ce qu'on va faire dans tous ces projets thérapeutiques. Et donc, je parle de l'ergothérapeute qui va se concentrer sur des choses vraiment très, très simples de la vie. Si je prends le travail des psychologues, je trouve que c'est un travail qui est vraiment très humain parce que ça ne se concentre pas sur l'aspect de la médication, de justement, est-ce que la médication fonctionne ? Ok, il y a un symptôme, il y a machin. Il y a vraiment, je trouve, un relationnel qui se concentre beaucoup plus sur, sur le vécu de la personne, en fait, juste d'être entendu, d'être cru, de pas être remis en question, ce qui peut arriver avec les médecins. Alors, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il y a toute une logique derrière. Ils font pas du tout le même travail, mais voilà. Enfin, je trouve que d'avoir en fait une personne qui est là pour écouter, recevoir un vécu traumatique, parce que souvent en fait, il y a un vécu traumatique avec le parcours psychiatrique. C'est important parce que bah pour certaines personnes, c'est le premier interlocuteur de leur vie qui va vraiment écouter sans juger ce qui leur arrive. Mmh. Voilà. Et au final, bah, je termine avec le travail des psychiatres. Moi, j'ai de la peine avec les psychiatres. Pas parce qu'ils font un mauvais travail ou quoi que ce soit, c'est juste une question de hiérarchie. C'est des personnes qui ont énormément de pouvoir sur notre situation. Et enfin voilà, ben moi, c'est des choses qui me font peur. Ça nous met dans des positions de vulnérabilité. Et ben, de façon générale, enfin, j'ai l'impression que la vulnérabilité, c'est quelque chose qui nous poursuit vraiment ben, tout le temps. Et voilà. Et malgré eux, ce sont des corps de métier qui se retrouvent à être ben, en position de force et dominante sur nous avec ben, des choix qui peuvent vraiment. Ben, autant nous aider que nous enfoncer. On parlait tout à l'heure des maltraitances psychiatriques. Enfin voilà, je veux dire, les maltraitances systémiques et autres, il y en a partout. Mais c'est vrai que réussir à, je trouve, mettre en place un lien de confiance avec les médecins et les médecins psychiatres, c'est vraiment quelque chose de compliqué. C'est pas impossible parce que, ben voilà, on peut trouver aussi un psychiatre qui nous convient. Mais voilà, c'est quelque chose de compliqué. Donc au final. Là, je parle beaucoup des ressources du réseau thérapeutique pour faire le lien avec le thème de tout à l'heure. Mais j'aime bien voir ça comme des corps de métier qui se complètent. Puis pour ceux qui ont de la chance de pouvoir faire des réseaux et que les intervenants se rencontrent pour bah, en fait, juste discuter entre eux. Et puis que les... Je ne sais pas très bien comment appeler ça, mais le projet thérapeutique et en fait ce que la personne souhaite et vise puisse être fait en cohérence avec les différents corps de métier. Mmh. Voilà, donc c'était vraiment pour faire le lien avec tout à l'heure. Déjà, pour cette partie des ressources.
Merci beaucoup. Et je vois plusieurs mains qui se lèvent. Oui, Quentin, oui.
Oui, moi je voulais rebondir sur les ressources. Avec, je pense qu'effectivement, les ressources thérapeutiques sont extrêmement importantes et nécessaires. Je pense aussi que les proches sont... indispensable. En ce qui me concerne, j'ai pu beaucoup apprendre de mes proches et de leurs conseils et de leur vécu. On a un problème avec le trouble psy, c'est le discernement. Parce que vous, en fait, vous partez en crise, vous avez plus votre capacité de discernement, vous êtes plus capable de prendre des décisions pour vous-même. Mais en fait, c'est pas un switch, c'est pas on/off et du jour au lendemain, vous avez plus le discernement. En fait, vous êtes là et vous, petit à petit, ça se dégrade. Et à un moment donné, le seuil, il est dépassé. Et là, c'est trop tard. Mais en fait, avant ça, il y a une dose d'auto-observation qui permet de se réguler, mais quand ça fonctionne plus, avant que ce soit trop tard, il y a aussi les proches qui vont venir intervenir et dire Quentin, là, t'es un peu trop up, quoi, t'es un peu trop excité, t'es trop joyeux, enfin voilà. Et surtout quand ils apprennent, parce que malheureusement les crises, il y a des rechutes. Au fur et à mesure des rechutes, les gens autour de nous, ils apprennent à voir les signes avant-coureurs, donc ils vont nous aider à prévenir ça. Et moi aujourd'hui, je me repose beaucoup. Sur, bah, sur Plantule, avec qui je vis en couple depuis bientôt 10 ans. Et je crois que l'un pour l'autre, on est un soutien très important et ce serait difficile de s'en passer. Et souvent, je me dis, mais qu'est-ce qui se passerait pour moi si je vivais seul? Est-ce que j'arriverais à m'en sortir? Est-ce que j'arriverais à rester en équilibre, en fait, à rester stable? Et je n'ai pas la réponse à la question, en fait, j'ai jamais testé, mais voilà, peut-être un jour j'y serai, on verra. Mais en attendant, je suis vraiment très heureux d'avoir du monde autour de moi pour mais rien que pour discuter, pour échanger, pour pouvoir dire, on rentre à la maison le soir et on dit, ah voilà, j'ai eu une interaction aujourd'hui, ça m'a mis pas bien, ça m'a mis mal à l'aise, et puis en fait, on peut juste se décharger un peu et en causer, ça c'est hyper précieux.
Merci beaucoup, Suzanne.
Oui, c'est hyper précieux de s'exprimer. On a la possibilité de s'exprimer. Il faut vraiment avoir de l'audace et parler. Parce que on risque rien. Et pour ainsi dire, pour les ressources, pour rester dans le thème, moi, je pouvais même pas me faire à manger.
J'ai un don de faire la cuisine, mais je ne pouvais plus l'exploiter. Et mon frigo était toujours vide, mon congélateur toujours vide. J'avais les ultra performance culinaire, casserole, machin, moulinex et tout, incapable de faire. Et maintenant, avec mon suivi, je refais mes courses tous les jours. Je refais ma cuisine et je fais mes petits plats pour moi. J'ai dit non, ça je mange pas parce que c'est pour tout le monde. Je mange ce que j'aime. Alors je vais faire mes petites courses, je suis toute contente de revenir avec mes petites courses.
Merci Suzanne, oui. Oui, Plantule, ouais.
Là, je vais rebondir sur à la fois ce qu'a raconté Quentin et Suzanne. C'était Suzanne, oui. Pour parler justement des ressources qui sont en fait celles qui vont nous côtoyer le plus souvent, c'est-à-dire les proches, la famille, les amis et d'autres espaces de rencontres. On a beaucoup entendu Suzanne nous parler de la famille tout à l'heure et en fait je trouve très intéressant la notion de dire qu'on choisit pas sa famille, en fait on choisit pas la famille dans laquelle on est, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa fratrie, mais par contre on choisit les gens qui vont nous entourer par la suite, on choisit une nouvelle famille, voilà. Et je trouve que c'est cette nouvelle famille qui va devenir une nouvelle ressource pour avancer avec ce qui nous arrive, parce que souvent en fait la première famille, elle est je pense qu'il y en a, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la chance d'avoir une famille soutenante dans cette première famille, et donc c'est vraiment une recherche, voilà. Et donc en fait j'aime bien parler des proches, j'aime pas parler de proches aidants, même si c'est ce qui se passe pour la plupart des personnes qui vivent, enfin l'entourage qui vivent autour. Mais j'aime bien les proches, j'aime bien parler des amis, j'aime bien parler des espaces de rencontre comme les groupes de parole, autour de thématiques particulières ou non, donc de santé mentale, de violence X ou Y, ou alors autour de... Enfin, il y a aussi les activités ludiques ou autres, où on se dit, OK, je vais aller dans un groupe d'écriture, j'aime bien écrire, je vais rencontrer des personnes et tisser des nouveaux liens. C'est pas facile, ça demande aussi du courage et ressortir de chez soi. Quand l'estime de soi a été abîmée, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Mais c'est important. Je pensais aussi aux associations parce que je sais pas si ça a déjà été évoqué, mais l'AVEP, parce que moi je connaissais pas du tout cette association. Mais au final, plusieurs associations existent. C'est aussi tout aussi important de dire, OK, ça marche peut-être pas dans une. Ça ne veut pas dire que c'est terminé et que ça ne marchera nulle part. Ça vaut la peine d'essayer. Des fois, c'est une mauvaise période. Il y a peut-être, au moment où on arrive, des personnes avec qui ça ne fonctionne pas. Puis en fait, on revient peut-être une année ou deux plus tard et puis ça refonctionne. Ce sont aussi des choses qui vont fluctuer dans la vie en fonction de notre état. Genre là, typiquement, pour exemple, ça fait aussi 10 ans que je suis dans une autre association. Et en fait, j'étais en recherche justement de rencontrer des nouvelles personnes dans cette association. J'ai fait mon temps. J'ai eu des postes à responsabilité aussi dans cette assoc. Et je me rends compte que ça s'essouffle. Mais je pars sans regret parce que j'ai beaucoup réfléchi à me dire, OK, mais est-ce que je reste ou pas? C'est con. Il y a plein de belles rencontres à faire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus alignée avec les personnes qui font partie de la SOS parce que ces personnes arrivent justement avec des besoins relationnels, des besoins d'être entendues, compris, justement de sortir d'une situation de stigmatisation. Et en fait, moi, j'ai déjà fait tout ce parcours. J'ai déjà fait tout ce parcours et je suis à un autre stade de la chose. J'ai rencontré des personnes super qui, en fait, ont aussi fait leur parcours en parallèle. Mais voilà, je le vois pas comme un échec. En fait, je le vois comme une expérience que j'ai fait à un moment donné qui m'a beaucoup appris, justement, qui a renforcé aussi mon estime de moi. J'ai eu l'occasion d'essayer plein de choses dans cet espace, comme justement organiser des événements, justement avoir des postes à responsabilité, des choses que je me voyais plus faire après ces épisodes de crise assez intenses. Et voilà, donc ça a été vraiment très très riche. Mais c'est pour dire que c'est pas parce que ça a duré une certaine période et que ça s'arrête que c'est un échec, c'est une expérience. Mmh. Voilà.
Merci. Oui, Quentin, on vous écoute.
Oui, et du coup, je voulais rebondir sur la notion de la vape parce que j'y avais pensé aussi. Mais avant ça, je mentionne quand même à titre personnel mes chats comme ressource parce que c'est pour de vrai, hein, c'est exceptionnel au point de vue, je sais pas, relationnel. Il y a quelque chose qui se joue, il y a une vie dans un appartement et ça crée des relations qui sont aussi très thérapeutiques pour le coup. Mmh. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Un chien, un chat, un hamster, une souris, je ne sais pas. Un perroquet. Un perroquet, c'est bien, vous pouvez même causer avec.
Oui.
Mais du coup, par rapport à la vape, en fait, je voulais dire, je pense qu'une grande ressource aussi, en tout cas pour moi aujourd'hui, c'est les personnes concernées, les autres personnes concernées. Parce que on peut être à cœur ouvert, on peut dire qu'on est à l'AI sans rougir. On peut parler de nos expériences, des problèmes qu'on a pu avoir, de notre diagnostic et tout ça, sans être jugé comme on est jugé dans le vrai monde, si on veut dire ça comme ça. Et ouais. Et en plus, aujourd'hui, dans les associations en lien avec la psychiatrie, comme la VEP, il y a toute une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place autour de la paire aidance. Avec des activités de pair animation que vous pouvez proposer. Vous avez une personne concernée qui vient, qui dit « j'aimerais faire un atelier ». Et on dit « ok, alors qu'est-ce que tu veux faire ?» On co-organise, on co-construit. Et c'est vraiment hyper gratifiant, parce qu'après vous avez des gens qui viennent à votre atelier, puis vous êtes là, puis vous montrez ce que vous savez faire. Et c'est super cool. C'est vraiment dans un contexte où peut-être vous ne pouvez pas travailler, ça devient l'occasion de partager et de contribuer, en fait. Et ça, c'est hyper précieux aussi. C'est vraiment, une excellente ressource qui est en train de se développer aujourd'hui. On a les pairs praticiens qui commencent à être formés aussi ici en Suisse, les pairs praticiens en santé mentale. Et je pense que c'est aussi hyper intéressant d'amener des personnes, de valoriser l'expérience et de venir faire appel à ces personnes dans des contextes thérapeutiques aussi, pour qu'ils puissent parler de leur vécu et de leurs outils. Et voilà, donc je pense qu'il y a un grand champ d'exploration là-dedans, dans cette paire aidance aussi.
Merci beaucoup. Merci pour tous ces beaux témoignages. Malheureusement, notre émission touche à sa fin. Merci d'être venu. C'était super enrichissant. Moi, j'ai passé un excellent moment. J'espère que vous aussi. Merci à Julien, à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, si vous avez des downs, ne restez pas seul et prenez surtout le temps de prendre soin de vous. Merci. À tout bientôt. Ciao. Yeah. The phone went there when we first took the pill.
après.